Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien vous fasse. Longtemps, elles furent un lieu pour grandir loin des parents, le temps des vacances. On s'y retrouvait chaque été pour célébrer le temps des amitiés à la vie à la mort, le temps des copains dans un brassage social qui mêlait ruraux et citadins, fils d'ouvriers immigrés et filles de profs de centre-ville, le temps des amours de vacances et des randonnées qui usaient les souliers, des bains de mer où l'on jouait à tenir le plus longtemps sous l'eau, des batailles de polochons dans les dortoirs dès que les moniteurs avaient le dos tourné. Souvenir impérissable des colonies de vacances, en perte de vitesse depuis plusieurs années. Alors à quoi ressemble-t-elle en 2017? Ce sont essentiellement des colos à thème, aux tarifs souvent inaccessibles pour de nombreuses familles et qui n'assurent plus vraiment la mixité sociale qui était l'un de leurs fondements. Si vous êtes parents, dites-nous pourquoi vous envoyez ou non vos enfants au colo cet été. Et puis si j'étais auditeur de Grand Bien vous fasse, j'appellerais le standard pour partager mes souvenirs de colo à la Montagna, à Anvetsch dans les Pyrénées-Orientales, ou à Antichamp de Frontignes, en Haute-Garonne, dans les années 1980. Mais je préfère vous écouter nous raconter vos bons souvenirs de colo, ou vos moins bons si vous étiez un peu misanthrope façon Schopenhauer et que vous détestiez cette vie en collectivité. N'hésitez pas à nous appeler au standard de France Inter 01 45 24 7000, sinon et Josué attendent vos coups de fil par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com et sur notre page Facebook. Et puis en fin d'émission, vous retrouverez « Il était une fois dans le web » de Julia Foyce.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rebbi.
Je vais reformuler. Est-ce que vous avez des questions en rapport avec la colo, l'organisation? Vas-y.
Vous avez les horaires des prochains trains pour Paris?
3 semaines, c'est lundi.
Hein?
C'est obligatoire les douches.
Comment?
J'ai pas reçu un colis.
Moi, j'ai pas ma valise.
Est-ce que je peux changer de chambre?
Oui.
Extrait de Nos jours heureux de Toledano et Nakache en 2006. Avec nous pour évoquer les colonies de vacances, deux invités. Bonjour André Roche.
Bonjour.
Vous êtes historien, professeur émérite à l'université Marc Bloch de Strasbourg. Vous avez notamment publié en poche et pluriel « Vacances en France » de 1830 à nos jours. Bonjour Olivier Dusselier.
Bonjour.
Vous êtes président de Viva Vacances qui propose des colos aux enfants et aux ados. Et vous êtes administrateur de l'UNOCEL. C'est quoi l'UNOCEL ?
L'UNOCEL, c'est l'Union nationale des organisateurs de séjours éducatifs et linguistiques, et donc une union professionnelle qui a pour vocation de fédérer autour de valeurs de qualité, de monter le niveau de professionnalisme des séjours éducatifs, donc des colonies, et des séjours linguistiques, et même un peu plus, mais tels que des métiers autour des langues.
Alors André Roche, il me semble que c'est en 1907 que le terme colonie s'associe à celui de vacances. Pourquoi parle-t-on de colonie de vacances ?
Là, vous me posez vraiment une colle. En fait, la question qui peut se poser, c'est est-ce que l'idée de colonie, elle n'est pas liée étroitement, mais j'improvise, hein, elle n'est pas liée étroitement à l'idée d'aller au loin. D'ailleurs, le terme de colonie de vacances a été très contesté dans les années 70-80. On lui a d'ailleurs supprimé, on l'a remplacé par centre de vacances, car le mot colonie désignait un passé de la France, entre autres, hein, qui était la colonisation. Bon, je crois qu'il n'y a pas un grand rapport, mais enfin les choses étaient ainsi. Donc pour ma part, je l'interpréterais comme je viens de vous le dire, c'est-à-dire cette idée que l'enfant est accueilli et on le prend en charge, il va au loin.
Quelles sont les origines des colonies de vacances, des origines à la fois laïques et religieuses, alors avec à la fois un but éducatif et sanitaire, selon le courant auquel appartenaient les colonies de vacances?
Alors là, effectivement, on est plus informé. Vraisemblablement que les premières colonies de vacances sont organisées en Suisse par un pasteur Bion, et elles ont deux formules, soit le placement dans des familles, soit à la journée, et on appelle ça souvent la cure de lait, milk court, c'est-à-dire qu'un enfant était nourri pendant une journée, et ça s'adressait bien sûr à des familles qui étaient dans le besoin, quoi. Alors l'histoire des colonies de vacances, elle a 150 ans quand même, donc le fait qu'elle ait évolué ne doit pas nous surprendre, et le fait qu'aujourd'hui on appelle cela une désuétude, je suis pas certain qu'on prenne l'ensemble de l'horizon. Alors les premières colonies de vacances, me semble-t-il, sont des colonies d'inspiration protestante. C'est en particulier le cas des Trois Semaines ou de la Chaussée d'Antin. Mais les laïcs, et particulièrement la Ligue de l'Enseignement, a aussi créé ces colonies. Et puis toujours, on est dans les années 1880, 1990-1914, il faut dire que l'action des patronages chez les catholiques a été importante. Ne pas négliger le fait qu'il y a aussi des colonies de vacances israélites qui, dans cette époque-là, existent. Les musulmans, me semble-t-il, viennent plus tard pour des raisons démographiques, pour des raisons multiples que, sur lesquelles on ne s'arrêtera pas. Ça serait la première période. Alors, il y en a une deuxième, c'est l'engagement de l'État.
C'est l'âge d'or.
Voilà, oui. Alors, je peux me tromper, mais je parle sous le contrôle d'Olivier Duzelier. Donc, dans les années 1935-1937, sont créées des fédérations, sont créés aussi des mouvements, comme les CMA, par exemple, les Centres d'éducation de méthode active, qui vont développer, cette fois-ci, l'idée que les vacances, c'est pas seulement de l'hygiène, c'est pas seulement de la santé. Alors, comme vous le savez, on mesure les enfants, on les pèse, et puis éventuellement, on prend le tour du thorax et au début et à la fin de du séjour, mais ce sont aussi des moments où l'enfant apprend le jeu, c'est-à-dire que le jeu fait partie intégrante de l'éducation et les colonies de vacances vont attirer cela. Alors de ce point de vue, les moniteurs vont avoir des diplômes, les directeurs, directrices, économes, etc. Et la réforme suivante, vraisemblablement, se situe dans les années 49-50, à savoir lorsque la réglementation devient plus stricte, en particulier sur les questions de l'hygiène, sur les questions de compétences, etc. Voilà, en gros. Hein.
Olivier Duzelier. Est-ce que les colos traditionnels où l'on partait un mois, où l'on dormait dans de grands dortoirs et où on envoyait 2 cartes postales par mois, est-ce que c'est de l'histoire ancienne ?
Alors c'est probablement de l'histoire ancienne concernant les contenus, André Roche vient de le dire, mais déjà les formats ont changé, c'est-à-dire qu'effectivement le séjour de un mois a du mal à exister, il n'existe plus, même si aujourd'hui des séjours de 20 jours continuent d'exister. La durée moyenne d'un séjour en colo pour un enfant en France, toutes saisons confondues, c'est à peu près 8 jours. Donc oui, on n'est plus sur des séjours très longs comme cela. En revanche, on bascule sur des séjours qui peuvent être 20 jours un petit peu partout dans le monde. Et en France, pourquoi pas ?
On y reviendra tout à l'heure, mais pendant longtemps, aller en colo, c'était un moyen de brasser toutes les couches sociales, André Roche.
Alors, il y a deux aspects. Les premières colonies dont je parlais tout à l'heure, celles avant la Première Guerre mondiale, sont essentiellement destinées à des enfants qui éventuellement sont maladifs ou pas en bonne santé, et à des enfants dont la famille ne peut pas assurer ni la garde, ni les vacances. Cela dit, à partir de la deuxième période, ce que j'ai appelé les années 35, 37, etc., je crois que le Front Populaire ici marque une date importante, à partir de ce moment-là, l'idée que la colonie de vacances est faite pour rencontrer et c'est fait pour créer, alors nous dirions aujourd'hui du lien, à l'époque c'est pas ce mot-là qui sera utilisé, devient extrêmement importante. Mais en même temps, il faut savoir que ce sont par exemple l'apparition des colonies de vacances des grandes entreprises. Plus tard, ce sera la SNCF. Alors la SNCF, c'est pas le cas puisqu'elle est créée en 37. Hein. Mais ces entreprises, d'une certaine manière, elles créent un monde, je ne veux pas dire fermé, mais enfin relativement homogène. En ce sens, la crise que nous connaissons et dont nous allons parler tout à l'heure, elle ne surgit que dans les années 70-80, lorsque la colonie de vacances brasse des populations qui ne se rencontrent plus.
Olivier Duzelier, sur le vivre ensemble, permettait largement la colonie de vacances ?
J'ai un point de vue un petit peu différent, c'est-à-dire que effectivement on est passé d'un moment où les organisations, notamment des gros comités d'entreprise, étaient extrêmement entre soi, puisque les enfants de Renault partaient avec les enfants de Renault et les enfants de la SNCF.
Oui, mais il y avait les enfants de cadres, les enfants d'employés, d'ouvriers. Il y avait un vrai brassage social, même au sein d'un CE comme celui de Renault.
Absolument. Je crois que ça perdure encore. Au sein des comités d'entreprise, je crois que ça perdure encore. Mais ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est que désormais, le CE de Renault va mélanger ses enfants avec le CE de Thomson ou avec le CE de du journal Le Monde. Ce brassage, il va exister aussi d'une structure, d'une société à une autre, ce qui n'existait pas avant.
Un courriel de Nathalie qui nous dit « J'ai 53 ans, j'habite Montreuil, mon père était agent EDF-GDF et je dis souvent rigolant que je suis un pur produit éducatif d'écolo des années 70. Nous avons eu la chance, à l'occasion de séjours de qualité, de participer à des projets que nous n'aurions pas réalisés par ailleurs. Équitation, course en montagne, stage de théâtre, on était au Festival d'Avignon en 82 et mille autres choses. Enfant, je me souviens d'avoir pleuré au moment de quitter mes parents, mais je suis toujours revenu, sauf rares exceptions, avec de superbes souvenirs en tête. Vive la colo. Bonjour Michel.
Bonjour.
Vous appelez de Bretagne. Est-ce que vous aussi, vous clamez vive la colo?
Ah oui. Nous avons vécu des années magnifiques en allant en colonie de vacances à l'île de Bas.
Pourquoi? Racontez-nous.
Alors, nous étions tout un groupe d'enfants du Helgoat, centre Finistère, et cette colo avait été créée juste après la guerre par des gens de l'amicale laïque du Helgoat et a accueilli jusque tardivement, là elle est à vendre, il n'y a plus d'enfants qui puissent y aller, qui y aillent en tout cas. Et nous, nous avons vraiment vécu des 3 semaines, on attendait, on était ravis, c'était la plage, on revenait dorés comme des brugnons pendant en revenant de l'île de Bas. Et c'est vrai que cet endroit est magique, et c'était la plage, c'était les jeux, c'était les champs, c'était les veillées.
Et c'était le temps des copains et le temps des amours aussi.
Ben non, ah bon. Pas vraiment.
Des copains au moins, des copains ou des copines, en toute amitié.
Oui, car l'amicale avec Helgoat accueillait dans sa colo les enfants de l'aviation civile de la région de Paris, et donc d'une entreprise. Et c'est vrai que nous avons gardé de bons souvenirs avec ces jeunes qui venaient d'une autre région.
Il y avait du brassage social, Michel?
Un peu. Mmh. Un peu. Mais bon, à l'époque, on ne se rendait même pas compte que c'était un brassage social. On était ravis de courir sur la dune, d'être libre, tout en étant bien encadré. La colo était sur la dune, tout près des plages. C'était magnifique.
Merci beaucoup, Michel, de nous avoir appelé autour de la table. De bons souvenirs de colo, Olivier Dusselier.
Je trouve que l'image dorée comme des brugnons est extraordinaire. Merci, madame. Elle est vraiment très jolie. Des souvenirs à titre personnel. Moi, je ne ferais pas ce métier-là si mes parents n'avaient pas eu l'excellente idée de m'envoyer en colo. Je n'aurais jamais appris le ski. Et pourtant, heureusement que mon grand frère était dans le car avec moi, parce que en partant de Paris, je pleurais encore à Lyon, donc c'est des moments qui sont extrêmement fondateurs, qui m'ont personnellement construit, et des histoires comme ça, et bien au-delà, il y en a plein, il y a plein d'enfants qui ont appris à découvrir des régions, à découvrir des activités, à découvrir des amis, à changer de réseau, pourquoi pas.
André Roche.
Alors, je reviendrai pas sur les batailles d'oreiller ou de polochon, etc. moi, ce qui me reste en mémoire, c'est la grande tragédie de la baignade. Donc, c'était épouvantable dans un premier temps parce qu'il fallait attendre presque, je sais pas, 2-3 heures. Enfin, pour moi, c'était un temps infini avant d'entrer dans l'eau puisqu'il fallait que la digestion se fasse, etc. Bon. Donc, on attendait bien. Et puis ensuite, il y avait la baignade. Alors, ça, c'était le moment fabuleux. Mais dès que l'un d'entre nous avait un petit frisson, il fallait qu'on arrête. Donc on se disait les uns aux autres, surtout tu frissonnes pas, sinon c'est foutu.
Bonjour Julia Foyce.
Bonjour.
Vous avez fait des colos, vous?
J'en ai fait une fois dans ma vie. Et en fait, moi, ce que ça m'a appris, c'est qu'une clôture électrique, ça se prend pas à deux mains.
Oui. Bon, écoutez, il en reste des séquelles?
Oui, vous le savez bien. Toutes les semaines, vous les entendez, ces séquelles.
Et puis tout à l'heure, vous écouterez le reportage de Thomas Chevineau qui a rencontré des jeunes qui lui ont raconté leurs souvenirs de vacances. 01 45 24 7000, grandbienvousfasse@radiofrance.com pour témoigner et nous poser vos questions. Cette émission est préparée par Alexia Rivière et Lorraine Bess avec l'aide de Clara Marliot et c'est réalisé par Claire Destacan qui adore la colo.
Ça se perd, ça se délite. On a changé de satellite. Le froid derrière la fenêtre me pénètre et ton visage brumeux qui part au mieux, ça s'envole comme c'est venu. Ton regard ne me reconnaît plus, un être
Burning Peacock.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h25 et on s'intéresse ce matin aux colonies de vacances en compagnie de l'historien André Roche et avec le spécialiste Olivier Dusselier. Olivier Dusselier, selon un sondage de l'IFOP pour la jeunesse en plein air, les Français ont plutôt une bonne opinion des colos, surtout quand ils y sont allés jeunes ou s'ils y ont envoyé leurs enfants. Mais les colos connaissent une forte baisse de fréquentation. 4 millions d'enfants et d'ados partaient dans les années 60. En 2015, ils étaient un peu plus d'1 300 000. Or, ce qui freine, c'est d'abord peut-être le coût financier du séjour. Grégory nous dit... En tout cas, il y a un mail qui nous dit que le coût est exorbitant et que même avec les aides de la CAF, les familles n'arrivent pas à envoyer leurs enfants en colo.
Je pense qu'il y a, plusieurs manières d'envisager les choses. Alors, tout simplement, pour être factuel, le prix moyen d'un séjour en France doit être effectivement autour de 800 euros, toute saison et toute période confondue. C'est-à-dire que, évidemment, vous payez plus cher un séjour au ski que vous ne payez un séjour d'une semaine à la campagne. Et vous payez évidemment plus cher un séjour à l'étranger de 20 jours que vous ne payez un séjour de 5 jours pour un premier accès. Donc, il existe des séjours de proximité pour les enfants les plus jeunes qui peuvent démarrer à 300, 350 euros hors transport. Donc, il peut y avoir des séjours adapté. Votre auditeur mentionnait l'aide de la CAF. Il y a aussi de multiples aides qui existent, qui peuvent être les comités d'entreprise, qui peuvent être les municipalités, qui peuvent être les chèques vacances.
Je cite Grégory. Grégory nous dit « Les colos sont devenus tout simplement inaccessibles pour les familles ne disposant pas de revenus importants et les éventuelles aides aux vacances de la CAF ne peuvent couvrir qu'une infime fraction du coût. Dommage. »
J'ai bien entendu effectivement l'idée de l'auditeur. Je pense malgré tout qu'il y a dans nos colos aujourd'hui un certain nombre d'enfants qui partent pour des coûts extrêmement dérisoires, payés par eux-mêmes. Donc il existe un certain nombre d'un maillage d'aides. En revanche, on peut effectivement remarquer que tout le monde n'est pas à la même enseigne et la première des grosses différences, c'est que si vous avez un comité d'entreprise extrêmement social et en tout cas qui cible sur les colos, vous allez être forcément beaucoup plus avantagé, vous aurez beaucoup plus de chances de pouvoir faire partir votre enfant que si vous êtes employé d'une PME qui, elle, n'a pas la possibilité de vous offrir cela. En revanche, il y a quand même un certain nombre d'aides qui existent.
Le coût des colos grimpe également à cause de la multiplication des normes de sécurité.
Alors, oui, enfin, on pourrait répondre mécaniquement oui, bien sûr, mais c'est pas forcément cela. Ça, c'est un des éléments. Ça grimpe beaucoup à cause du surenchérissement du coût de l'hébergement. Les prix des hébergements ont extrêmement évolué depuis plusieurs années et le coût du transport. Et ces deux, il y a eu une étude par la DJEPVA, qui est la direction de la jeunesse et de l'éducation populaire au ministère, une préétude économique qui a été faite l'an dernier à ce sujet. Et ces deux éléments forts, hébergement et transport, ont été pointés comme étant un des éléments qui faisait que ça montait les coûts.
Alors, ce qui peut rebuter également les parents, c'est aussi le manque de confiance dans le personnel qui encadre les colos. Chaque été, des accidents sont largement médiatisés, sans compter la crainte de la pédophilie, des agressions sexuelles sur mineurs.
Oui, c'est une réflexion que l'on entend régulièrement de la part des parents. Je crois qu'il faut y répondre de manière assez factuelle. Pour encadrer, pour organiser des colonies aujourd'hui en France, il faut passer par les fourches codines d'une organisation sans faille et sous le contrôle de l'État et plus. Pour prendre cet exemple des équipes d'animation, toute organisation de séjour en France doit déposer au plus tard 8 jours avant le début du séjour une liste de l'ensemble des personnels d'encadrement. Cette même liste étant traitée par le ministère en rapport avec les ministères concernés pour essayer de voir si les personnes qui vont faire partie de l'encadrement peuvent être soit interdits d'encadrer, soit être sous l'effet d'une condamnation pénale ou d'une interdiction d'approcher les mineurs. Et c'est fait systématiquement. Ce qui veut dire que comme vous les déclarez 8 jours au plus tard avant le début des séjours, 48 heures après ou 72 heures plus tard, vous recevez un papier. Pour ma part, je n'en ai jamais reçu et je m'en réjouis, mais qui vous dit, vous n'avez pas le droit d'embaucher cet animateur, par exemple. Donc c'est ça, c'est le premier élément.
Un courriel de Thomas qui nous dit « J'ai 24 ans et chaque année au début de l'été, je repense à la colonie que j'ai fréquentée de 6 à 14 ans. C'est une expérience géniale qui marque à vie. On y rencontre des amis, on y apprend certaines valeurs de la vie et on acquiert de l'indépendance et de l'autonomie. Que de souvenirs incroyables et inoubliables. On pleure deux fois au moment de partir et au moment de rentrer. » Bonjour Thierry.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Vérane.
J'appelle de Vérane dans la Loire, petit village sympathique.
Alors, est-ce que vous avez fréquenté les colos, vous, Thierry ?
Alors, moi, personnellement, j'ai fait des camps scouts aux Éclaireurs de France. Mmh.
Expérience similaire, hein, avec les colos.
Oui,
hein.
C'est l'expérience similaire, c'est-à-dire qu'on part, les parents vous laissent tranquille, on fait son sac à dos et salut, je suis tout seul pendant 3 semaines. Plus de parents. Génial. Et donc, j'ai voulu, avec mon épouse qui, elle, n'avait pas eu cette chance quand on a eu des enfants, leur faire profiter de la même chose. Comme elle travaille à la SNCF, on peut citer le nom, il y a un comité d'entreprise qui organise des colos à partir de 4 ans. Mmh. Donc mes filles sont parties, les deux, qui ont maintenant 17 et 19 ans, donc c'est vieux, à l'âge de 4 ans, on emmène ses enfants. Là, ils sont accompagnés par les parents et on laisse son enfant de 4 ans, alors le plus angoissé, c'est bien évidemment le parent, c'est pas l'enfant, parce qu'il s'installe, il y a d'autres petits garçons, d'autres petites filles, bon, c'est sympa. Et ma deuxième fille, quand elle avait sa deuxième colo à 5 ans, le jour de la rentrée des classes, après la colo, pour vous dire l'ambiance de la colo, elle est allée à l'école, elle a retrouvé les copains de l'année d'avant, et le deuxième jour, en se levant le matin, elle me dit « mais je veux pas me lever ». Non, il faut aller à l'école. Non, je veux retourner à ma colo.
Est-ce que vous avez transformé est-ce que vos enfants ont été transformés par ce séjour en colo? Est-ce que vous avez constaté des transformations du point de vue de l'autonomie, du point de vue
de l'autonomie, on s'aperçoit quand on, même des enfants de 4 ans, 4 ans, 5 ans, quand on va les récupérer à la sortie, les chercher, dire ah, youpi, ça va, bon, ils font du vélo plus vite, ils vous expliquent le nom des coquillages. Pour se servir au self, parce qu'on mange ensemble, on s'aperçoit qu'ils sont autonomes, qu'on n'a pas besoin d'être le papa poule ou maman poule, parce que le cuisinier leur dit « tu te débrouilles ». Donc, il y a un vrai apprentissage de l'autonomie. Et mes filles ont appris à faire de la voile. J'en ai une qui est passionnée de voile, qui cet été part avec des amis parce qu'elle est bonne sur un bateau avec de la voile. Elle a appris dans le golfe, dans la rade de Brest, dans une colo.
Olivier Dussolier.
Oui, alors là, merci de ce témoignage. Effectivement, les bienfaits pour les enfants et puis aussi pour les parents, puisqu'on voit bien que quand on les récupère plus autonomes, on a moins besoin de faire le lit pour les enfants. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux et on sait bien que les enfants à colo, entre guillemets, ont plus de facilité à créer du lien. À partir du moment où ils vivent des séjours, qu'ils aiment y retourner, ils sont plus à l'aise à créer du lien, ils sont plus à l'aise à s'adapter à des groupes différents, à des états d'esprit différents. Ils sont moins inquiets par le changement, par la nouveauté. Et effectivement, ils se développent en dehors du foyer familial, là où peut-être aujourd'hui on a un peu tendance à les garder pour soi et à penser que seule la cellule familiale est capable de donner la bonne éducation et les bonnes manières.
André Roche.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'ajouterais peut-être deux choses. C'est que l'une des premières crises, entre guillemets, que connaissent les colonies, c'est aux alentours des années 1960. C'est-à-dire au moment où la scolarité prend de plus en plus d'importance et où les parents se disent, il faut que j'investisse dans les loisirs de mes enfants, et en particulier dans les loisirs de vacances. Et du coup, les vacances en famille, c'est un grand moment éducatif qui va porter un préjudice qui va un peu freiner le départ en colonie. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, mais c'est quelque chose qui joue. Il y a une deuxième chose sur laquelle j'insisterai, c'est que la colonie de vacances, c'est l'apprentissage de ce que j'appellerais l'éloignement ou le dépaysement. Le fait, à un moment donné, qu'un enfant découvre qu'il y a un autre monde ailleurs, donc loin des parents, loin des frères et sœurs, etc., c'est là une expérience existentielle extrêmement importante. Pour lui, elle peut être catastrophique, mais en général, je crois que, je donne raison ici à Olivier Dusselier, elle est extrêmement bienfaitrice parce qu'il il découvre que lui-même a une potentialité d'initiative, d'autonomie, etc. Voilà.
Alors Thierry nous a dit qu'il a été scout. Comment vous expliquez que les camps scouts ou d'éclaireurs connaissent un succès grandissant alors que les colos traditionnels déclinent?
C'est
parce que c'est une école d'apprentissage de la communauté et du don de soi, le scoutisme.
Je ne sais pas si c'est...
Il y a aussi la question du coût aussi, peut-être.
Oui, il y a éventuellement la notion du coût. Et puis, il y a peut-être un élément qui fait vraiment la différence entre l'écolo et le scoutisme. C'est que le scoutisme, c'est une expérience qui se fait au long de l'année. C'est-à-dire que vous partez avec les gens que vous connaissez au long de l'année. Et quand on abordait ce sujet de la confiance, là, pour le coup, il est primordial. C'est-à-dire que vos parents vous laissent le week-end avec les scouts qu'ils connaissent au fur et à mesure. Et puis, petit à petit, on arrive assez rapidement à pouvoir partir pendant les vacances pour 15 jours, puisque c'est avec un encadrement et une structure qu'on connaît.
Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Vous appelez du Vaucluse.
Oui, c'est ça.
Alors, est-ce que vous êtes adepte des colos?
Alors en fait, moi j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était ouvrier à la SNCF. Mmh. Et du coup, je suis partie chaque année en fait de mes 7 ans jusqu'à mes 16 ans en colo.
De quel côté?
Donc moi je suis du sud de la France et je partais en Bretagne. Je suis partie plusieurs années en Bretagne, en Normandie. J'y ai découvert des activités nautiques, le canoë, la voile, le char à voile. Je suis partie une fois aussi du côté de Carcassonne faire de la spéléologie.
Mais au-delà des activités, est-ce que les souvenirs liés à l'amitié, aux amours, est-ce que c'est quelque chose de fort dans vos souvenirs?
Ah mais complètement. J'ai eu mon premier baiser en colo, hein, voilà.
Et les booms aussi, les booms. Les booms.
Les booms, oui, bien sûr. Et puis, des amitiés très fortes aussi. Hein.
Pardon?
Des amitiés aussi très fortes. Hein. Voilà, sur une période courte, mais intense. Et je crois un apprentissage des relations sociales différentes, justement, le fait de partir avec des gens qu'on ne connaît pas. Ça permet de se révéler à soi-même et de prendre confiance en soi, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu.
C'est très intéressant ce que nous dit Mélanie Olivier Dusselier sur la confiance en soi.
Oui, absolument. C'est-à-dire que par cette capacité, mais André Roche en parlait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire par cette capacité à quitter le foyer familial, à se réaliser par soi-même, à faire ses choix, à prendre ses décisions. Bien sûr, on se sent beaucoup plus fort d'être capable de l'avoir fait, d'être capable d'avoir quitté papa et maman. Après, je retiens que les deux derniers auditeurs remontaient l'info que ils avaient découvert des choses qu'ils n'auraient jamais découvert et notamment des activités. Alors je me réjouis parce que les deux ont parlé de voile et je trouve que c'est une très très belle activité. Mais c'est effectivement le lieu, la colonie, pour découvrir des choses que l'on ne verrait pas à la maison, qu'il s'agisse d'une activité sportive, de l'escrime, du tir à l'arc, de la voile ou de découvrir la manière de soigner les animaux.
André Roche.
Oui, encore un mot sur les activités. Dans ces années 60-70, où les colonies de vacances sont un peu en difficulté, elles seront les premières à réagir en inventant, en créant des colonies dites thématiques. Donc il y a la voile, il y a l'escalade, il y a éventuellement les séjours linguistiques ou peut-être le bricolage ou que sais-je, la poterie, etc. Et c'était, je crois, important parce que l'activité, c'est pas tellement étranger à la notion de sociabilité, car on fait quelque chose ensemble et il faut le faire en équipe, il faut le faire avec les autres. Et de ce point de vue, la découverte de ce que nous appellerions l'esprit d'équipe correspond, dans ces années-là, à un besoin de la jeunesse.
Merci beaucoup Mélanie de nous avoir appelé du Vaucluse. Vous pouvez continuer à partager vos souvenirs de colo au 01 45 24 7000, grandmainvousfasse@radiofrance.com. Et oui, Julia Foïs, les colos, c'est les booms. Et les booms, ah ben, on dansait sur ça. Hein.
Oui, c'est vrai, et on roulait des galoches aussi.
Ali Rebéi sur France Inter.
les Jackson 5.
Ali Rebbi, grand bien vous fasse, sur France Inter.
10h42 et on s'intéresse ce matin aux colonies de vacances en compagnie de l'historien André Roche avec le spécialiste Olivier Dusselier. Et il est temps d'écouter le reportage de Thomas Chevineau qui est allé écouter des souvenirs de colo dans une cour d'école.
Moi je suis allé voir, il y avait des cochons dans ma colonie parce que il y avait une ferme à côté. Donc on allait voir les chevaux, on allait caresser les chevaux. On donnait à manger aux cochons, par contre, ils se poussaient dans la boue. On leur donnait les céréales qu'on n'avait pas mangé.
Moi, quand je suis allée en colonie, je suis partie en colonie de plage. C'était bien parce que là-bas, il y avait des marchands de glace. Et je rêvais trop de manger des glaces avec plusieurs boules.
Et moi, j'ai un très mauvais souvenir, c'est que j'avais été en colonie avec Romain, d'ailleurs, il est dans l'école. Et en fait, il avait la diarrhée et toute la nuit, on l'entendait péter. Donc ça puait dans la chambre.
Ouais, c'était ce que j'ai préféré, c'était la boum. Enfin, j'ai un mauvais souvenir, il y avait une fille qui ne voulait pas danser avec moi.
Ah ouais, ouais. Sinon, la boum, c'est bien en colo, normalement.
Oui,
ouais,
c'est bien.
Elle fait que manger des becs.
Ouais. Moi, ma pire bêtise, c'était la nuit. Il y avait des autres gars, ils nous embêtaient tout le temps. Et donc après, moi et mes copains, c'était la nuit, comme ils sont tous allés aux toilettes. On a pris de la pâte à chiffrise, on a mis sur leur oreiller et ils se sont couchés dessus.
Et mon bon souvenir, c'est le ciné, parce qu'il y avait un ciné, voilà.
C'était trop bien le ciné, parce qu'en fait, il y avait une salle de cinéma et avant la boum, on allait voir un film.
Est-ce que les animateurs, ils sont toujours sympas?
Oui.
Il y en avait un, il s'appelait Thomas, et quand on faisait des bêtises, il nous étranglait ou il nous tirait par notre t-shirt et il nous jetait par terre.
Ouais, c'était le seul qui était méchant, sinon ils étaient tous gentils.
Pourquoi c'est bien une colonie?
On est sur les parents.
Ouais, on est sur
les parents. Non, on n'a pas de parents.
On est avec nos amis, on peut faire ce qu'on veut.
C'est trop bien de ne pas être avec ses parents.
Bah oui, parce qu'on est lâchés, on est libres, on est...
En plus, se faire tout sans les parents.
Mais ils vous manquent pas, vos parents, quand vous êtes en colonie?
Si, un petit peu, pas beaucoup.
Toi, tu veux dire quoi?
J'étais allée en colonie. Je sais pas quoi dire.
Parler à sa place.
Et est-ce qu'on dort bien en colonie?
Non, on dort pas. En fait, dans notre colonie, parce que il y avait des... Mais attends, l'avant-dernière nuit, il y avait des gars, ils se réveillaient et ils faisaient le bazar et ils couraient dans les couloirs, ils criaient, ils disaient des gros mots, ils toquaient, ils ouvraient les portes.
Qui a déjà fait des bêtises en colonie?
Moi.
Tout le monde, quoi?
Et dans notre
toi, t'as fait quoi comme bêtise?
Moi, je suis allée dans une chambre, j'ai toqué, après j'ai couru dans ma chambre, je suis montée en haut de
la nuit.
Oui.
Pendant que les autres dormaient?
Ouais.
Et toi?
Moi, le soir, je suis allée dormir dans la chambre de ma copine qui était tout au fond.
J'ai une dernière question à vous poser. Et quand ça s'arrête, est-ce qu'on est triste?
Ouais,
on pleure parce que on pleure parce qu'on perd nos amis, on part, on voit plus les animateurs et on fait plus ce qu'on veut parce
Je pleure pas. Quand je rentre de colonie de vacances que je vois ma mère, je pleure.
Pourquoi?
Parce que je suis triste. Je pleure de joie.
De
la revoir.
Et toi?
À ma deuxième colonie, j'ai pleuré pour la fin parce que j'avais un super copain.
Quand on sort de colo, c'est vrai qu'on a envie de refaire le même jour à chaque fois.
D'y retourner?
Oui, voilà. De refaire la colo jusqu'à que ça ne s'arrête jamais.
Reportage signé Thomas Chevineau. Alors, au fond, les souvenirs les plus forts en colo, c'est peut-être les souvenirs de copains, des amours, des bêtises, des 400 coups, Olivier Dusselier. Peut-être plus que les activités.
C'est ça qui est chouette dans ce que racontent les enfants. Et ça, c'est vraiment à écouter par les parents. C'est-à-dire qu'on entend plein de petites anecdotes. Parfois, certaines nous disent « Oula, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et puis d'autres fois, on dit « Oh, ça a l'air bien simple. » C'est plein de petites choses, mais c'est plein de petits moments de vie. Et que l'on voit, c'est que même s'il y a des moments de vie qui semblent un peu plus négatifs et d'autres beaucoup plus positifs, à la fin, quand on leur demande est-ce que vous voulez retourner, est-ce que c'était bien, d'un accord commun, ils disent oui. Et c'est ça qui est un élément important, parce que parfois on ressort des petits moments de vie de manière un peu négative et on les met probablement trop en relief. Et bien évidemment que dans certains des retours, il y a des choses qui ont dû être traitées et travaillées sur place pour que ça ne se reproduise pas, mais c'est vraiment enthousiasmant et rigolo. Et effectivement, on entend, contrairement aux parents, les auditeurs que nous avions tout à l'heure, on entend plutôt des retours sur des moments de vie, les copains et comment ça se passe dans la chambre,
les cas sont cool, les bêtises,
que les activités, heureusement.
André Roche.
Dans ce très très beau reportage, moi j'ai noté quelques ruptures. La première, c'est la discipline parentale, donc la surveillance des parents, elle disparaît, mais il y en a une autre qui la remplace, simplement c'est pas la même. La deuxième rupture, c'est celle sur les horaires. Donc la nuit, normalement, on dort. Mais non, pas du tout. Pendant les colonies de vacances, on dort pas. Et puis la
on
troisième...
On va dans les dortoirs des filles ou des garçons la nuit.
Ah, je ne sais pas ce qu'on fait, mais...
À l'insu des moniteurs de colo.
Il y a une rupture des horaires. Et puis la troisième, c'est l'idée de la transgression. Ce que tout à l'heure Olivier disait, c'est les faire des bêtises. Et puis je terminerai sur un point que j'ai trouvé important, intéressant. Jamais un garçon ne vous dira qu'il pleure. C'est pas un garçon. Et ici, ils expriment les émotions. Et je pense que la colonie de vacances, au-delà de l'activité, des activités qu'elle propose, des amitiés qui se créent, il y a cette prise de conscience que les émotions, c'est important.
Alors Sandy nous dit par courriel, on ne propose plus des colonies simples, elles sont hors de prix car toutes les colonies sont à thème, sport, cheval, escalade. Pourquoi ne pas revenir à des colonies simples sans activités rocambolesques? Car après tout, ce qui est intéressant, ce sont les rencontres, la vie partagée, les soirées. Olivier Dussollier, c'est vrai qu'on assiste à une explosion des colos spécialisés, thématiques, qui conduisent peut-être à une segmentation et peut-être à, on le disait tout à l'heure, moins de brassage social.
Segmentation, oui. Une offre extrêmement large, oui. En revanche, si on cherche bien, et désormais les organisateurs sérieux ont un site internet, on a moyen de trouver des séjours sur lesquels il y a des séjours extrêmement simples qui ne sont pas axés sur une mono-activité et qui sont axés sur plusieurs éléments. Il y a aujourd'hui une possibilité de choix de séjour à la montagne, à la campagne, au bord de mer, à l'étranger, qui est extrêmement varié et extrêmement riche. Après, des sites comme l'Unocel, il se trouve que c'est mon union professionnelle, mais on a une grande diversité d'offres sur ce site-là qui peut être trouvé. Est-ce que le fait d'avoir des séjours avec beaucoup d'activités segmente, je ne le sais pas, parce que on peut avoir des séjours avec beaucoup de football et que ça fasse beaucoup de mixité. On peut avoir des séjours avec des thématiques peut-être un petit peu plus
socialement marquées.
Et encore, ou en tout cas, effectivement, peut-être que les enfants qui vont sur les séjours station spatiale sont différents des enfants qui vont aller sur un séjour cow-boy indien. Mais il y a vraiment une très riche diversité d'offres qui permet vraiment à chacun de trouver son bonheur.
André Roche.
Moi, je reviens sur la remarque que fait le correspondant, à savoir qu'il aimerait des colonies simples. Et en l'écoutant, je me suis dit, tiens, en fait, nous qui sommes autour de la table, nous partageons quelque chose qui est de l'ordre de la nostalgie. Autrement dit, une colonie simple, c'est une colonie d'autrefois. C'est une colonie où tout le monde est heureux, où il n'y a pas de question de consommation. Et là, on voit à quel point c'est un des arguments principaux qui sont donnés. Il y a aussi cette idée que dans la colonie, les organisateurs sont d'une certaine manière bienveillants. Autrefois, on aurait dit bénévoles, ce qui est peut-être la même chose, mais dans un contexte différent. Et puis, il y a aussi cette idée de refonder une sorte de sociabilité qui soit hors de la précipitation qui est celle de l'année, qui est celle de la ville. Peut-être enfin le fait que dans cette colonie, il y a une sorte de nid, une nid bien protégée, d'où la méfiance évidemment des parents à l'égard de ce nid.
Laurence par courriel, pas du tout nostalgique, nous dit « J'ai 50 ans, fille d'ouvrier sans comité d'entreprise. Les séjours en colonie duraient un mois, des dortoirs de 12, des après-midi à la plage sans autre activité que d'interminables baignades, sieste obligatoire et surtout le souvenir de monitrices qui n'hésitaient pas à nous humilier comme nous barbouiller de purée pendant un repas. Pas pour nous punir.
Ben, on est d'accord, pas de nostalgie.
Dans ce cas-là.
C'est tout à fait différent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement, encore une fois, je pense que les organisateurs ont des informations extrêmement précises sur leur site internet et sur leurs brochures, et qu'aujourd'hui, il y a une espèce de nostalgie qui est probablement plus celle des parents. Alors, ce n'est pas le cas de notre auditrice, mais on sait qu'il peut y avoir des mauvais moments, mais oui, je confirme. Les enfants d'aujourd'hui, on ne leur propose pas des séjours d'un mois pour faire balade à la plage en se tenant par la main et sans autre programmation que des grands jeux et des tomates le soir. Il y a plein de choses qui sont faites aujourd'hui.
Et avec des goûters à base de pâtes de fruits et de lait concentré. Souvenir personnel. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Vous appelez de Bagneux. Il y a Julia Foyce à côté de moi qui se moque de moi.
Jamais.
Défendez-moi Véronique, s'il vous plaît.
Non, mais c'est ça. Pâtes de fruits, chocolat noir
En fait, c'est l'émission Madeleine
d'Ali. Café au lait obligatoire au petit déjeuner.
Qu'est-ce que vous avez dit au petit déjeuner, Véronique ?
Café au lait obligatoire. Je me souviens d'avoir réclamé juste du lait et on m'a dit que non, le chocolat, c'était le week-end. Non, je veux juste du lait et d'aller vomir parce que c'est dégoûtant le café au lait.
Moi, je me souviens du verre de lait obligatoire après la sieste vers 16h. On nous distribue un verre de lait très tiède alors qu'il faisait très chaud. Et donc, voilà. Bon, parlons de vous un peu, Véronique. Vous êtes allée en colo et vous n'aimez pas trop ça.
Les deux premiers séjours, c'était des colos de un mois avec des dortoirs. Alors là, nous, on n'était pas 12, on était au moins 25, avec la douche collective obligatoire tout nu devant tout le monde. Et malgré tout, j'y suis retournée la deuxième année parce que il se trouve que ma tante a pu participer à la colo en tant qu'encadrante, puis ma mère, donc c'était plus facile. Donc là, c'était pas des bons souvenirs, même si avec le recul, plein de nostalgie, en fait, quand même. Même des pâtes de fruits. Et puis, par la suite, j'ai pu faire d'autres colos. Alors, tout ça, c'était des organisations catholiques, un peu issues du patronage. Et alors là, j'ai découvert des colos où on pleurait comme des madeleines quand on sortait. C'était juste fantastique, génial, extraordinaire.
Merci beaucoup, Véronique.
Voilà, ça m'a donné envie d'être animatrice par la suite. Et voilà.
Bienvenue au club, en tout cas.
Je voulais quand même rebondir sur ce qu'avait dit un des intervenants. Malgré les bons de la CAF, il y a quand même la diversité, elle n'existe pas. Il existe des colos. On peut faire partir ses enfants là par la mairie, par exemple. Elle organise des séjours tout à fait abordables pour tous, mais il n'y a plus de mixité sociale parce que c'est pas du tout la même offre et c'est pas la même qualité, quoi.
Merci Véronique, je suis obligé de vous interrompre. Merci beaucoup d'avoir appelé. Et c'est vrai, pour terminer, ce qui est assez formidable en colo, c'est que les enfants discutent, débattent, font entendre leur voix hors du cadre familial et scolaire. Merci beaucoup André Roche, Olivier Dusselier, d'être venu ce matin. Et tout de suite, il est l'heure d'Il était une fois dans le web de Julia Foyce.
Once upon a time,
il faut garder le contrôle à tout prix.
Il était une fois dans le web.
Salut Julien, re-salut.
Salut Annie, sa petite Madeleine du jour.
Voilà de quoi animer vos vacances. L'un de ces challenges dont les réseaux sociaux ont le secret, c'est sur Instagram, en ce moment même que ça se passe. Et c'est l'histoire que vous nous racontez ce matin.
C'est l'histoire d'une paire de fesses que je vais vous raconter pour finir l'année en beauté. Elles sont blanches ou elles sont bronzées, elles sont caramel, elles sont abricots. Certaines portent même la marque du maillot. Bombées et rondes, elles font les fières, elles nous font de l'œil, ne manquent pas d'air. Ou elles sont plates comme les temps de verre, ou bien musclées, c'est bétonné. Quand d'autres sont capitonnés. On dirait des pommes, on dirait des poires ou comme un soufflet qui vient de retomber. Qu'importe, elles sont vraies, pas photoshopées. Même les plus velues, elles osent se montrer. Il y en a pour tous les goûts, elles nous arrivent de n'importe où. Depuis le mois de juillet dernier, la planète en est inondée. Ici une croupe, là un pétard, partout des babas, des fouettards et des brioches, des popotins, des joufflus, bref, des arrière-trains. C'est une épidémie ou bien en tenue d'Ève, tenue d'Adam. Ils se sont tous passé le mot, c'est ça la magie des réseaux. On en a vu en Italie, en Grèce et aux États-Unis. Oui, c'est vrai, jusqu'en Amérique. Faut dire, c'est simple comme un clic. Choisir le lieu pour l'esthétique et là se planter au milieu, poser de dos, se déshabiller, tomber la veste, relever le gant, montrer ses fesses et hop, c'est dans la boîte. Oui, c'est vite plié. Les offrir et les partager, c'est bon pour la postérité. Faut avoir un sacré culot pour oser cultiver ainsi, sans aucune culpabilité, le culte du cul dénudé. C'est de la culture potache et en même temps, ça prend, ça marche. C'est comme un cri de ralliement. À l'heure où tout semble foutre le camp, ça dit le retour à la nature et ça dit merde à la censure. Tout ensemble, cette communauté refuse l'uniformité, celle qu'on voudrait nous imposer. La fesse est belle, elle est vivante et c'est dans sa diversité qu'elle est bien la plus stimulante. Alors Zou, on y va, on s'y met à deux, on s'y met à trois ou même à quatre sur une fenêtre. Plus on est de fous, plus c'est la fête. Certains gardeurs ont leurs baskets ou même leurs bottes si ça les botte. Ici c'est un pareo qui glisse, là des bas complices sur les cuisses, un blouson autour de la taille ou bien un pantalon qui baille. Vous faites tout comme vous voulez, du moment que vous relevez un coin du voile sur la pudeur qui, oula, paf, s'est envolée. La charte, vous la connaissez. Pour le reste, ben, improvisez. Une pinède, une rue des Fougères, ou bien une voie de chemin de fer devant les grilles du Sacré-Cœur ou sous les lumières de Times Square. On peut y aller nu comme un ver, à l'aubeau au cœur de la nuit, en plein soleil comme sous la pluie. Un champ des possibles infini si l'on en croit toutes ces photos. Venez comme vous êtes, disait McDo. Bucolique, vous gambaderez dans les prés et les coquelicots. Romantique, vous préférerez les allées d'un jardin anglais. Un sentier touristique ou la brume fantomatique d'un port à marée basse, au loin les bateaux passent, oh que c'est beau, oh que c'est chic, peut-être trop mélancolique. Ah mais attends, il y a les tropiques, où sous une lumière qui pique, au-dessus de l'eau azurée, on peut embrasser un palmier. On dirait la grande odalisque, c'est sûr, un gros aurait adoré. Ah non, je n'exagère pas, certaines photos sont artistiques, bien au-delà du humoristique. C'est fait celle-là du Modigliani et celle-ci du Giacometti. Et au milieu des mimosas, on dirait du Botticelli. C'est fou cette virtuosité, tout ce qu'une fesse peut inspirer. Allez, 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 avouez, vous êtes tentés, vous essayez. Vous nous direz, ça sent l'été dans ce studio. Oui, allez, je sais, vous êtes chaud.
Allez, on y va. André Roche, Olivier Dusselier, vous me suivez?
C'est bien. Mais bien sûr, nous y allons.
Allez,
nous
hop, précipitons. Tout le monde monte ses fesses. Paf, paf, paf.
Merci de Julia Foyce. On vous retrouve dès lundi prochain à 9h oui, pour une émission d'été qui succède à Ça va pas la tête. Ça s'appelle comment?
Alors, ça s'appelle Dans quel monde on vit. Ce sera de 9h à 10h, donc du lundi au vendredi. C'est un magazine de société.
Eh bien, on vous écoute lundi à 9h, Julia. Demain, en partenariat avec l'hebdomadaire Le 1, comment vraiment débrancher pendant les vacances, avec le rédacteur en chef Julien Bisson, le sociologue des vacances et du tourisme Jean-Didier Urbain, et avec la psychologue clinicienne Sarah Chiche. Et vous, comment faites-vous pour vraiment débrancher pendant les vacances, si vous avez la chance de prendre quelques jours ou quelques semaines, grand bien vous fasse, à radiofrance.com. À la technique ce matin, Maxime Ingrand et Nicolas Delmas.